Donc, Bezrat Hashem, aujourd'hui nous allons traiter du sujet de Pourim avec un angle différent de celui que nous avons développé la dernière fois. La dernière fois nous avons étudié la Mishnah concernant la Megillah. Megillah Mikre, Be'achad Asar, Be'shnem Asar, Be'shlosha Asar, Be'arba Asar, Be'chamisha Asar, Lo Pachot Ve'lo Yoter. On a expliqué qu'en fait, Kadosh Baruch Hu était voilé dans les événements de l'histoire et que justement toute la fête de Pourim vient pour déceler l'étincelle divine qui se cache dans ces événements. Autrement dit, on nous apprend à voir à travers les vêtements de ce monde, tout ce monde est un vêtement, le dévoilement d'Hachem. Si on prend le mot Megillat Esther, traduction, c'est un Giloui depuis, à partir de Esther. Donc, un dévoilement à partir d'une cachette. Donc, c'est pas un paradoxe, c'est justement que pour dévoiler quelque chose, il est habillé. Cette chose-là est habillée et il faut savoir que quelqu'un porte ce vêtement. De la même manière que ma chemise, elle ne bouge pas toute seule maintenant. Je suis dedans, donc c'est moi qui anime ma chemise. Bien, à l'intérieur de ce monde, il y a un grand animateur. Et tous les événements historiques, politiques, tout ce qui se passe, bien, tous ces événements sont animés par cette Neshama divine, qui est l'infini béni soit-il, qu'on appelle le Mukhlak. On n'a aucune notion humaine qui puisse le définir. Mais au niveau de l'histoire humaine, c'est le grand architecte qui fait tout à l'intérieur de cette histoire humaine. Alors aujourd'hui, on va aller voir comment le Hari HaKadosh traitait ce sujet de Pourim, et justement de cette cachette. Beinyan Ma'amar Chazal, alors on va prendre une gmara de nos sages, que vous connaissez tous, Chayav Inish le Basume Bepuria. L'homme est obligé de se parfumer, donc de boire du vin, de boire de l'alcool à Pourim. Alors, faites attention que l'expression de la gmara, c'est pas de se saouler, Chayav Inish le Ishtaker, non. Chayav Inish le Basume. Basume, qui est la racine du mot Bosem, donc de se parfumer. Pourquoi? C'est important. Et le Rav Kook Zatzal toujours rappelait cette expression de Bosem concernant Akadosh Baruch Hu et concernant nos tikkunim, nos réparations dans ce monde. Le Rav Kook, en effet, à chaque fois qu'il te dit que tu fais une bonne action, il te dit « tu parfumes le monde ». C'est une belle expression. Tu es en train de parfumer le monde. Tu es en train d'apporter à ce monde une bonne odeur. D'où est-ce qu'elle vient cette odeur? Du jardin. C'est-à-dire du Eden. Eden qui veut dire délicat. Adin. Donc à chaque fois que tu es délicat dans ce que tu fais, dans ce que tu penses, dans ce que tu dis, tu parfumes l'univers. Et donc, côté va Arizal, Béchar à Kavanot. Le Arizal, dans son livre de Kavanot, sauf Inyan Pourim, un livre qui s'appelle Char à Kavanot, à la fin de ce sujet de Pourim, regardez ce que dit le Hari, qu'il est Olam, sachez que, à tout jamais, Toch Haklipa, à l'intérieur de l'écorce, Yeshnitsot Shel Kdusha. Il y a une étincelle de sainteté. Hameir betocha qui éclaire à l'intérieur de l'écorce. Umechayota. Et qui fait vivre l'écorce. Ça veut dire qu'en réalité, cette expression prise du lexicon de la Kabbalah, du lexique de la Kabbalah, klipa, qui veut dire une écorce, veut dire quelque chose qui cache. Par exemple, vous avez une orange sur un arbre, vous n'avez jamais vu une orange sur un arbre. Vous avez vu l'écorce de l'orange. L'orange, vous allez la voir quand vous allez l'éplucher. Ce qui fait en sorte que, à chaque fois que nous voyons quelqu'un dans ce monde, ou quelque chose dans ce monde, qu'est-ce que nous voyons en premier? La face qui est le vêtement superficiel. On ne voit pas l'intériorité des choses. Quand tu as rencontré ta femme, tu as d'abord vu son aspect. La première fois que tu l'as vu, c'est ce que tu as vu. Après, tu es en train d'étudier son intériorité. Mais c'est la même chose dans notre vie. Si j'exagère ce que je viens de dire, ça veut dire qu'en réalité, tout ce monde, par quoi on le voit d'abord? Par son aspect extérieur. On est d'accord? Seulement, à l'intérieur des aspects extérieurs de la vie qui sont comme des écorces, se cachent des étincelles divines. Et ces étincelles divines, ce sont elles qui font vivre même l'écorce que tu es en train de voir. La reine, Pam Beshana, dit le Ari HaKadosh, une fois par an, Tarich Lomar Baruch Aman, il faut arriver à dire Baruch Aman. Tu bénis donc ce qui normalement est à maudire. Comment est-ce que tu peux bénir Haman? Or, bénir ne veut pas dire bénir ici, puisque nous avons déjà étudié dans d'autres cours que le mot Baruch veut dire relier. Hein, en hébreu, Berer, c'est le genou. Qu'est-ce qu'il y a dans le genou? Eh bien, il y a la partie haute et la partie basse, et c'est le genou qui fait axe. Eh bien, le mot beracha ne veut pas dire bénédiction, ça c'est une traduction en français qui ne veut rien dire. La beracha en hébreu veut dire un lien. Quand tu fais une beracha, tu relis à quelqu'un. Tu ne peux pas dire à Dieu, béni sois-tu l'éternel, ça ne veut rien dire, depuis quand tu bénis Dieu. Ça veut dire baruch ata Hashem. Tu es relié. Ah, tu es béni. Qui je suis pour bénir moi, à Kadosh Baruch Hu? Ça me fait rire quand en français on dit « Béni sois-tu l'Éternel qui nous a... » Pour qui tu t'es pris? Alors, « Baruch Atah » ne veut pas dire « béni », mais veut dire « relié ».« Baruch Atah », tu es relié à Kadosh Baruch Hu. À quoi? Tu me relies à toi, donc tu me relies à l'infini. Donc, « Baruch Haman », ça veut dire quoi? Relier le mal apparent, parce que Haman, c'est le mal apparent, à quoi? À quelque chose de supérieur. Avec des mots simples, tu prends conscience, le jour où tu as perdu la conscience, que même le mal est relié au bien. Pourquoi tu ne le fais pas consciemment? Parce que consciemment, tu n'arriveras jamais à cette conclusion. Donc c'est comme si on te disait un jour par an, perds ta conscience volontairement. Parce que quand tu l'auras perdu, cette conscience, tu vas arriver à un certain niveau, et ça c'est interdit de le faire durant l'année, donc une fois par an, en perdant cette conscience, il y a une protection de la journée elle-même, on le verra tout à l'heure, et c'est pour ça que tu peux te laisser aller, tu lâches prise. C'est une journée où on lâche prise. N'ayez pas peur. Entre guillemets. Il y a une protection. Vous savez que le soulard n'a pas le droit de faire une tfila. C'est considéré comme de la avoda zara. Mais à Purim, c'est à un autre degré. Donc, la chen pa'am beshana, tzarich lomar baruch haman, kedé leamshich or el anitzot saou. Et qu'est-ce que tu fais en fait? Tu relis Haman en lui injectant l'étincelle divine qui se cache même à l'intérieur de lui-même. Pourquoi? Ben tout simplement parce que Haman ne peut même pas ouvrir sa bouche si Akadosh Baruch Hu n'est pas dedans. On est d'accord? Est-ce que Akadosh Baruch Hu est dans Haman? Oui. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu est dans Pharo? Oui. Il dit à Moshe, Bo El Pharo, viens chez Pharo, je suis dedans. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu se trouve d'une manière incompréhensible alors, dans Mordechai et dans Haman, en même temps. Et plus tu montes dans les degrés de l'infini, plus tu t'aperçois qu'il y a des contradictions. tu comprends plus rien. Yoshev Veseter Elyon. Traduction, plus tu montes dans le Elyon, plus il y a des styrotes. Des contradictions. Ça, c'est difficile à l'homme. À l'homme d'en bas, lui, c'est arrête de me dire que le mal, c'est du bien. Je comprends pas. Moi, le mal, c'est le mal. Le bien, c'est le bien. Et c'est très bien comme ça. Il faut savoir faire la différence. Mais sache que dans l'absolu, ce n'est pas comme ça. Quel? Il y a un risque. Nahon. C'est pour ça qu'on se dit que c'est Kapourim et que ce jour-là, il n'y a pas de risque. Et on va comprendre comment et pourquoi. Donc, Hanimshal, le Otonitsos Kadosh. Okay. Comment on dit Nimshal en hébreu? Il y a Mashal et Nimshal. Donc il y a un exemple, une analogie, et le Nimshal, c'est le secret de cette analogie. À quoi nous faisons référence? À quoi le Harizal nous fait référence? Ça, c'est des notions de Kabbalah. Il y a une étincelle de lumière qui fait vivre le mal. Ok, mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, Hanimshal le Otonitsos Kadosh, Hu Shafilu Etzel HaKofrim HaGdolim. Nous sommes obligés de comprendre, et ça c'est le Rav Kook qui nous donne ce secret, que même chez les gens qui sont les plus loin, qui sont renégats complètement, Nimsa Nitsos HaElohi Azel Etzoelet Mesuyemet, il y a encore cette étincelle divine pour un bien quelconque que peut-être toi tu ignores aujourd'hui. Mais ça n'existe pas un élément qui est complètement mal. S'il existe, c'est qu'il y a un élément de bien à l'intérieur au plus profond de lui. Va le chercher maintenant. Vous comprenez la difficulté de Pourim? La difficulté de Pourim, c'est en réalité de comprendre comment le bien se cache dans le mal. Avec d'autres mots, où se trouve la sainteté dans le monde le plus matériel? Quand je suis à la Tfila, je peux sentir une sainteté. Quand j'étudie la Torah, je peux sentir une sainteté. Mais là, on te dit, déguise-toi, saoule-toi, mange, bois. Là aussi, il y a une sainteté. Dans les choses les plus corporelles, les plus matérielles, les plus basses de ce monde. Voilà le secret de Pourim. Ça veut dire qu'il y a à l'intérieur de cette Megillah, si vous inversez le mot de Megillah, vous avez Glima. Glima, c'est-à-dire un vêtement. Donc dans le mot, et Legima, c'est-à-dire une gorgée. Ce qui cache en réalité, dans ta gorgée, tu dois dévoiler. Parce que la racine du mot Megillah, c'est les galotes. Gilouï. Et qu'est-ce que tu dois dévoiler? Ya. Magal, Ya. Ya, c'est les deux premières lettres du nom d'Hachem. Le Yud et le He. Vous savez qu'il y a quatre lettres. Le Yud, le He, le Vav et le He. Ce sont en réalité les quatre degrés de ce monde. Qu'est-ce que c'est que le Yud et le He si on devait lui donner un membre du corps humain? C'est quoi le Yud et le He, les deux premières lettres? Non. C'est les deux cerveaux. Le yud, c'est le cerveau droit, et le he, c'est le cerveau gauche. Il n'y a pas encore le corps. Le corps, c'est les autres lettres. Le vav et le he, ça c'est le corps. Donc vous avez yud et he qui sont au niveau de l'esprit, et vous avez vav et he qui sont au niveau du corps. Est-ce que vous devez séparer l'esprit du corps, oui ou non? Oui ou non? Non. Mais est-ce que vous devez les différencier? Oui. Qui ne sait pas différencier et qui sépare le haut du bas, la tête du corps? Amalek. Est-ce que vous connaissez le verset qui le dit? Ki yad al kef, ya. Maintenant, nous avons ces deux premières lettres. Ki yad, Amalek met sa main et il cache. Quoi? Le vav et le he. Donc, tu ne vois que le yud et le he, et tu n'as pas le vav et le he. Autrement dit, Amalek te dit Dieu, oui, mais pas dans ce monde. Moralité, qu'est-ce que tu dois faire avant de rentrer à Pourim? Le combattre. Si vous ne combattez pas Amalek avant jeudi soir, est-ce que votre Pourim sera un Pourim normal? Non. Tu peux te déguiser, tu peux manger, tu peux boire, tu peux te saouler, mais tu n'as pas saisi l'essence même de Pourim. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas accéder à Pourim sans avoir préalablement éliminé ce Amalek qui veut en réalité te découper le haut du bas.
Par exemple, tu es dans le monde des affaires ou peu importe dans quel domaine tu es, tu te comportes sans la présence de la chef, dans ton comportement, c'est avec Amalek.
Oui, par exemple. Ou autre chose.
Tu
as une idée, mais tu n'as jamais eu l'esprit de la réaliser. Il y a des gens qui ont plein d'idées. Toute la journée, ils ont des idées. Mais jamais ils arrivent aux jambes. Pareil. Une autre maladie, la même maladie sous une autre forme. Ou bien, comme toi tu l'as dit, ils ont des jambes, mais ils n'ont pas de tête. Ça n'existe pas, c'est pas du judaïsme. Alors les uns, c'est des babacools, il n'y a que le corps. Et les autres, c'est des esprits planes. Ça aussi, c'est pas du judaïsme. Rappelez-vous que la lettre que vous représentez, chacun de vous, c'est la lettre Vav. On est tous des fils de Yaakov. Yaakov, c'est la lettre Vav du nom d'Hachem. Cette lettre Vav, elle est censée faire quoi? Qu'est-ce que c'est Vav en hébreu? Un lien. Ani, Ve, Vav, Ata. J'utilise le Vav pour faire les liens. Mais dans les lettres du nom d'Hachem, c'est la même chose. Le Yud et le He ont besoin du Vav pour descendre dans le dernier He. Comprenez? Mais si ce Vav-là, tu le coupes au niveau de la tête, vous voyez le signe que je viens de dessiner. Non? Tu prends la lettre Vav, c'est un trait, tu le coupes aux deux tiers supérieurs. C'est facile, non? C'est une séparation totale entre la tête et le corps. On n'est pas là-dedans, Chas v'Shalom. Nous, on est des vavim, la amoudim. On est en train de construire le Mishkan dans les parachotes de la Torah. Vous avez déjà vu qu'il y a là-bas des vavim pour les tenir les piliers du temple. Il y a des vavim. Qu'est-ce que c'est les vavim? Mais c'est ceux qui font les liens. Dans la Kabbalah, il y a un tikkun qui s'appelle tikkun ha-vavim. Un grand secret. Comment rester quelqu'un qui fait des liens dans ce monde? Ou bien, comment être dans un monde éparpillé complètement, où tu n'es qu'un point dans l'univers. Il n'y a pas plus grande malédiction que cela, que d'être un point paumé dans l'univers, qui n'a pas de lien, qui ne connaît pas les liens avec les degrés avoisinants. D'accord? Si tu es dans un point comme ça, Chas v'Shalom, tu es paumé. Donc il faut vite, trouver l'arme qui peut combattre Amalek. Maintenant, je vous traduis les X et les Y par des noms. Amalek, c'est la séparation. Donc, quelle est l'arme qui peut réparer ce monde de la séparation? Rien que quelque chose qui vient unifier. Comment ça s'appelle en hébreu, dans la Torah? Da'at. Comme il est dit dans Bereshit, « Ve'adam yada et chava v'tahar v'teled ». Le mot « da'at » en hébreu ne veut pas dire connaissance au niveau information, mais connaissance comme un homme connaît sa femme. C'est-à-dire une connaissance qui va donner vie. Qui représente ce degré dans les acteurs de la Torah? Qui est le « da'at » dans la Torah? Moshe Rabbeinu. D'accord? Moshe Rabbeinu, c'est le Da'at. Donc Moshe Rabbeinu, c'est le plus grand ennemi de Amalek. Vous comprenez? Maintenant, oubliez que ce sont des acteurs qui ont vécu à une certaine période. À l'intérieur de vous, vous avez et Amalek et Moshe. Donc qu'est-ce qu'il faut faire à Pourri? Prendre votre Moshe intérieur et le mettre au plus haut niveau, pour qu'il puisse détruire le Amalek qui est en vous. C'est ça Pourim. C'est pas une fête juste pour Massechot, Rahashanim, Shirim, Verikudim. C'est sympathique pour les enfants, mais c'est pas ça. C'est très profond Pourim. C'est tellement profond que c'est lié à la Géoula d'aujourd'hui. Parce que la Géoula d'aujourd'hui, elle ressemble étrangement à la Géoula de Pourim. Pourquoi ? Ben tout simplement parce que la Géoula d'aujourd'hui, elle aussi, elle est cachée dans les événements politiques. Les gens voient la télé, ne comprennent même pas que c'est Akadosh Baruch Hu qui gère l'histoire, on est d'accord ? Chaque fois qu'il se passe quelque chose, vous vous dites, ça y est, on est foutu. Mais c'est la même histoire. À la grande différence, énorme, c'est qu'on est aujourd'hui sur notre terre, alors que Pourim, c'était à l'étranger. Donc l'histoire avance. Et ça, c'est en réalité ce que nous dit le Hari. Cherche à l'intérieur de tout ce secret-là, de tous ces vêtements. Vous avez déjà vu un livre où il y a autant de récits, de vêtements et de beauté et de couleurs et de matières que la Megillah. Qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, que il y a de beaux ustensiles en argent, que les dalles sont en marbre, que les lits sont en argent. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Et les piliers, tout ça c'est la Megillah. Et les vêtements du roi, et la couleur des vêtements, et la matière des vêtements, et de Esther, et qu'est-ce qu'elle est, et le... Vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vêtements là-dedans. Tout le mois s'appelle un vêtement, Adar. Ça vient du mois Adéret. Adéret, c'est un vêtement. On est dans le mois du vêtement, donc dans le mois qui cache. Car un vêtement, ça cache. Comment on dit un vêtement en hébreu? Beged, ça peut devenir un boged. Un prêtre. Et qu'est-ce que ça cache, beged, dans l'alphabet? Le aleph. Il y a aleph. Et juste après, il y a bet gimel dalet. C'est-à-dire que bet gimel dalet, c'est le beged du aleph. Mais si tu ne sais pas voir le aleph dans le beged, tu as perdu en réalité. Tu t'es perdu toi-même dans le vêtement. Et t'as pas compris l'essence qui anime à l'intérieur de ce vêtement. C'est l'histoire de toute la vie. C'est la même chose. C'est là où on reçoit des vêtements. C'est là où on se cache. Où Dieu se cache dans l'histoire. Achen ata el mistater. Comme ça dit le prophète. Dieu, tu es un Dieu qui joue à cache-cache. Vous vous rappelez? Il y avait une question?
Oui. Comment est-ce que, en se parlant de ce qu'il a eu, tu fais la séparation, on doit élever le date?
Il a fait. Le date, c'est justement ce qui empêche la séparation des choses, ce qui fait les liens.
Alors comment, en se parlant matériellement de ce qui fait la séparation ce jour-là, on arrive à faire la date?
Alors, c'est là, c'est pour ça qu'on va étudier ça. D'accord? D'abord, on sait que c'est lié à Moshe. Donc, Pourim, par définition, c'est la fête de qui? De Moshe. Seulement maintenant, il a pris un autre corps. Il s'appelle Mordechai. C'est les mêmes. Le Hari Akadosh nous dit que Moshe, c'est Mordechai. Chaque fois, il revient sous un autre corps. Ok? Et Esther, c'est qui? Aaron. Chaque fois, c'est un couple qui revient, tout le temps. À la fin des temps, ça va revenir. C'est toujours les mêmes initiales, d'ailleurs. Le même et le Aleph. Moshe, Aaron. Mordechai, Esther. Mashiach Eliyahu. Donc, ne vous perdez pas dans le nouveau personnage. C'est-à-dire, même si tu vois Mordechai devant toi, qui c'est? Moshe. N'oublie pas. Et Moshe, qui c'est? Da'at. N'oublie pas. C'est le lien le plus profond qui puisse exister. C'est ta Moshe. Quel? Moshe commence un certain travail et sa nouvelle apparition Mashiach va terminer. Pas qu'il n'a pas réussi. La Géoula, comme tu l'as appris déjà dans le Yerushalmi, c'est Kim'a, Kim'a, petit à petit. C'est étape par étape. Donc tu ne peux pas dire à quelqu'un, l'année dernière à Pessah, je croyais que la Géoula est arrivée, mais on nous a planté, la Géoula n'est pas arrivée. Ça, c'est des gens qui ne comprennent rien à la Torah. L'année dernière, la Géoula a avancé d'un pas. Si tu ne sais pas le voir, c'est malheureux. Et chaque jour, la Géoula, elle avance d'un pas. Le problème, c'est qu'on vous a mis dans la tête que tant que le bonhomme Mashiach n'apparaît pas, il n'y a pas de Géoula. Donc c'est un problème. Vous ne comprenez pas que la Géoula, c'est un cheminement. C'est un degré qui avance petit à petit. Et si tu ne sais pas voir ça, tu confonds Géoula avec le monsieur Mashiach. Mashiach, c'est juste, à la fin, c'est l'antenne qui va capter l'émission, c'est tout. Mais toute la Géoula, elle est bien avant. Quel?
C'est ce qu'on met le couple de Moshe avec Dat. Moshe Aaron.
Bien fait.
Mordechai Esther, Dat et...
Qu'est-ce qu'il...
Qu'est-ce qu'Aaron lui représente, Moshe Aaron?
Bien fait. Qu'est-ce que... Dis-le, toi. Où est-ce qu'il était, Aaron? Il était plus proche de Dieu ou plus proche des hommes?
Des hommes.
Bien fait. Donc, si Moshe, il est un petit peu plus en haut, Aaron, c'est sa bouche. Vehu yel chale pe. L'Elohim. Atat yelo l'Elohim, verou yel chalepe. Moshe, c'est Elohim par rapport à Aaron qui est sa bouche. Donc, Moshe, quand il veut parler, il passe par qui? Par sa bouche. Mais tu comprends que c'est un seul personnage. Yoel, quand il veut parler, il passe par sa bouche. C'est la même chose. Donc, ma pensée, c'est Moshe, et ma bouche, c'est Aaron. Quelle est la différence entre Moshe et Aaron? Moshe, c'est une grande lumière. Aaron, en hébreu, veut dire petite lumière. Or, katan, Aaron. Yel et katan, yaldon. Or, katan, Aaron. Donc, oubliez un petit peu de temps en temps les personnages, sinon vous allez coincer dans un système humain. Ce sont des codes. Vous comprenez ce que je suis en train de vous raconter? Prends ces personnages et apprends à les intégrer, ils font partie de toi. Donc Mordechai et Esther. Mordechai, c'est la pensée. Qui fait le travail réellement dans la rue? Dans la réalité? Esther. Esther va rentrer même chez le roi Achashverosh. C'est elle qui fait le travail réellement. Mordechai, lui, il donne. C'est l'idée qui se cache. Elle est tout le temps de Shahar HaMelech. Mordechai Yoshev Beshahar HaMelech. Mordechai, c'est l'idée première, qui est toujours à la porte du jardin du roi. Pas Achashverosh, du roi des rois.
Pratiquement lui qui a tout fait.
C'est lui qui donne le Zerem, le premier putsch, mais réellement en bas, c'est Esther qui va rentrer, qui va être réellement touché par le royaume lui-même, c'est-à-dire par le degré matériel. Et c'est toujours comme ça. Donc il faut développer votre Moshe, votre Aaron. N'oubliez pas que le jour de Pourim, c'est le jour de la Brit Mila de Moshe. Puisqu'il est né le 7 Adar. Donc 7 plus 8, ça fait combien? C'est Pourim. Donc Pourim, qu'est-ce que vous fêtez en fait? Quelle est la racine du mot Pourim? Vous savez ce que c'est, Pourim? À part Pour, qui veut dire un goral et un tirage au sort. Quelle est la racine de pour? Pérou, ourvou. C'est-à-dire? Se multiplier. Comment je peux avoir des enfants? En utilisant le Da'at. Donc Moshe, c'est celui qui est responsable des enfants dans ce monde. C'est lui qui donne l'avenir. C'est l'enfant qui reste. C'est pas l'enfant qu'on tue. On tuait tous les enfants, vous vous rappelez? Moshe, non. A été sauvé. Par qui il a été sauvé? Non. Non. Bithya. Et qu'est-ce que c'est Bithya? La fille de? Des deux premières lettres du nom d'Hachem. Yudehe. Bithya. Vous voyez, ce sont des noms de code, il faut juste savoir jouer avec. Pourquoi? Parce que Moshe fait le lien entre le Yud et le He et le Vav et le He. Alors on continue. Kach mefaresh Rabbi Tzadok HaKohen, Rabbi Tzadok de Lublin, nous explique le bitouï Baruch Haman. Qu'est-ce que ça veut dire Baruch Haman? Comment tu peux dire Baruch Haman? La Kavana, qui bekol inyam ra, parce que dans notre vie, dans chaque fois que tu as eu quelque chose de mal dans ta vie, en tout cas que toi tu as considéré comme étant mal, ou bechol midara, même dans une vertu qui est mauvaise, davar tov, il y a quelque chose de bien. Ve'il malechen, et s'il n'y avait pas quelque chose de bien dans le mal en question, lo haya ba'olam, il ne serait même pas là. Le fait que quelque chose soit dans le monde, c'est qu'il y a un point divin qui l'anime. C'est ça que ça veut dire. Sinon, tu ne l'auras jamais vu. Il n'existe pas. Kahu inyan galut, juste je termine ça, c'est la même chose au niveau de l'exil. Qu'est-ce que c'est que l'exil en fait? C'est quelque chose de mal. Mais à l'intérieur de l'exil se cache un processus nécessaire qu'on appelle galut ashrina, etzel umot haolam. Et donc, je dois utiliser entre guillemets cette période de mal pour découvrir la lumière qui se cache. Et c'est ça le tikkun qu'on doit faire dans ce monde. Donc dans notre monde, il y a beaucoup d'éléments qui cachent. Pratiquement tous les éléments cachent. Et nous, notre travail, notre métier, c'est quoi? De révéler. C'est tout. On n'est là que pour révéler. On n'est pas là pour faire des actions. On est là pour faire révéler le divin qui se cache dans chaque chose. Alors ça passe par la Torah, par des mitzvot, par ce que la Torah nous dit. Mais ça passe essentiellement par le fait que je prenne conscience qui je suis pour faire ce travail. Mais Vadaï, c'est pas que tu peux, tu dois. Et bien Vadaï que tu peux. Le problème, c'est que d'abord, il faut prendre conscience que tu es un peuple et non pas un petit bonhomme individuel. C'est ça notre problème à tous. C'est que tu as l'impression qu'il y a un petit bonhomme religieux qui fait sa petite Torah et mitzvot, et tu comprends pas qu'en réalité il s'agit d'une nation. Alors, si tu as oublié ça, qui vient te le rappeler? Haman. Haman, c'est Amalek. Il s'appelle Haman Ha'agagi. Il vient de Agag. Agag, c'est Amalek. Qu'est-ce qu'il dit Haman? Yeshno Am Echad. C'est un peuple. Un, uni. Le problème, c'est Meforad Ken ou Mefuzar. Ben Ha'amim. Il est dans le Piroud. Il est parti en mille petits points séparés. J'ai aucun rapport avec toi, t'as aucun rapport avec moi. Chacun fait sa petite Torah, sa petite mitzvot dans mon petit coin. Et en plus, on est en exil. Éparpillé parmi les nations. Il dit Aman, mais c'est, elle est belle l'affaire. Et les Chachamim nous disent Yeshno, Yashnu. Le peuple est endormi. Il n'est pas actif, le peuple. Quand le peuple n'est pas actif, qui est actif? Les détails. Toi, tu habites à la rue Léphante, lui, il habite à la rue d'Antibes, l'autre, il habite à la rue de Machin. De temps en temps, vous voyez à la synagogue, c'est ça le judaïsme? Ou à la boucherie? Vous ne vivez pas en tant que nation. Donc les détails prennent le niveau le plus élevé. Ça, c'est la meilleure base pour un pogrom. C'est ce que dit Haman. Haman, c'est Hitler, c'est son grand-père. Qui n'ont pas conscience qu'elles font partie d'un tout. Donc, moralité, quel est le tikkun, entre guillemets, de Pourim? Pas seulement la hardoute. C'est de revenir sur la terre. C'est pour ça que Pourim, c'est une fête qui est à l'intérieur d'elle-même malheureuse. On est resté après serviteur d'Achashverosh, après toute cette fête-là. Sortie, Esther, elle est sortie de chez Achashverosh. Non. Elle est restée là-bas. C'est Kacher Avadeti. Avadeti. Je suis paumé. J'ai donné mon être pour sauver ma nation. Mais en réalité, c'est très malheureux comme fin. Tu peux même pas dire le Hallel, tellement tu peux pas dire que tu n'es pas encore le serviteur d'Hachem, tu es encore le serviteur d'Achashverosh. Or le Hallel, il commence par louer ceux qui sont serviteurs de Dieu. Tu n'es pas serviteur de Dieu. Alléluia, Hallelu, Avde Hachem. La Gemara dit, Avde Hachem, Avde Achashverosh. De quoi tu me parles? C'est les serviteurs d'Achashverosh, ou de Macron, ou de Trump, ou de je ne sais pas qui. Tant que tu n'es pas sur ta terre, sous ta souveraineté, tu te prosternes à qui en fait? À un autre Dieu, à une autre nation. C'est C'est ce qu'on a demandé à Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi il y a eu ce pogrom qui a été évité du stress à Pourim? Qu'est-ce qu'il leur a répondu? Parce qu'ils se sont prosternés à quoi? Qu'est-ce que ça veut dire se prosterner à une statue? Vous croyez qu'on leur a apporté des statues, ils ont fait comme ça? Parce que tout simplement, ils se sont prosternés, ils ont accepté une autre royauté que la leur. Et l'autre réponse, « Mipne shenehenu mise'udato shel otoracha » en faisant exprès de ne pas rappeler qui c'est le otoracha, parce qu'en réalité, peu importe, à toutes les époques. Qu'est-ce que ça veut dire « shenehenu mise'udato » Ils ont kiffé, excusez-moi l'expression, du repas qu'ils mangeaient là-bas. Parce que l'essentiel, c'était quoi? Que ce soit sous le bedding de Paris, de Strasbourg, voilà, c'est pas cher, Bedin. Ton assiette, elle est kshera, Bedin. Mais tout le reste. Tu manges du kasher dans un environnement d'Avodah Zara. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire que tu as pris le détail de la kashroute et il t'a caché la route. Comme disait Manitou. Tu sais même pas où tu habites, mais ton assiette, elle est super kasher, hein, attention. C'est tout, c'est les vêtements. La femme, c'est le vêtement pour l'homme. C'est la même chose, Ishtok et Gouffo. Et comment est-ce qu'on demandait aux filles juives de là-bas de venir servir les hommes? Nus. Pourquoi nus? Parce qu'ils avaient des idées derrière la tête, ces mecs là-bas. C'était quoi le but? Pas de les regarder nus. De dire que le peuple d'Israël a perdu son vêtement. Il a plus sa terre, il a plus ce qu'il était, il est sans vêtements, il est nu. Et les kélim, avec quel kélim il buvait là-bas? Avec les kélim du Beth Amikdash. Autrement dit, c'est où le vrai Beth Amikdash maintenant? À Shushan, à Paris, à Bruxelles, à Londres. C'est tout. Arrêtez! C'est quelque chose de très grave, cette fête, Rabotai. Ne rentrez pas léger à Pourim.
C'est une forme de bonheur, en fait.
Mais ça daille.
Quand tu bois dans les kélim d'or...
Ça veut dire qu'en réalité, tu as substitué le Beth Amikdash à un autre lieu. Et Achashveros, lui-même, s'est fabriqué une chaise comme Shlomo. Et il a mis les vêtements du Kohen Gadol. Vous avez vu les aventuriers de l'Arche perdue, ils s'habillent tous en Kohanim et ils se la jouent, okay. C'est la même chose. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est l'image, je veux que vous compreniez. Ça veut dire qu'on a oublié notre identité là où ça doit se faire et on fait à peu près, ça ressemble mais ce n'est pas, c'est comme du Canada Dry, ça ressemble à du whisky mais ce n'est pas du whisky. Okay. À quoi tu joues? On est des gosses, on va transformer la rue je ne sais pas où à New York en Beth Mikdash. Mais à quoi vous jouez? Mais vadaï. Mais vadaï, il faut faire attention, il y a quelque chose qui se cache derrière tout ça. D'ailleurs, comment s'appelait le vaudor? Egel Masecha. C'est pas par hasard qu'on l'appelait Egel Masecha. C'est ça le veau d'or. Vehashkia kadat. En ones, dit la Megillah. Les bouteilles étaient avec triple bouchon, kacher, machin. Les gens, ils regardaient comme ça, 2 heures la bouteille. Damas. J'adore ça. On dirait des spécialistes. Arrêtez. Tu rentres dans un mariage, tout de suite, il est où le chômeur, tu sais quelle est la cacheroute. Arrêtez! Soyez normaux! Dvarim elu meforashim be sefer azor. Tout ce que je viens de vous dire, ça vient du Zohar. Parce que le Harizal, tout ce qu'il a pris, c'est du Zohar. Zohar HaKadosh Chelek Bet. Velet Pulchana Dekutcha Berichu. On ne peut pas réellement servir HaKadosh Baruch Hu, dit le Zohar, El Amigo Hashucha, si ce n'est à partir des ténèbres. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde de ténèbres, et donc, tant que tu n'es pas en train de servir Dieu dans le monde du vêtement, des ténèbres qui cachent, tu n'as pas encore dévoilé Dieu. Qu'est-ce qu'il veut dire Rabbi Shimon Bar Yochai à la Vachalom? Tant que tu sers Dieu dans la lumière, c'est que tu n'es pas arrivé encore à la fin de ton travail. Le but du judaïsme, c'est servir Dieu à partir de la matière. Quand tu manges, quand tu bois, et quand tu as des rapports intimes avec ta femme. Là, je veux voir si tu es un sadique. Est-ce que tu es capable de déceler la sainteté qui se cache dans la nature? Le Rav Kook. Hakdusha Shebateva. Ah, là, c'est autre chose.
Bonjour aussi, parce que ça peut amener
un chapitre. Nahon, c'est pour ça, justement, qu'on est tombé là-dedans. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui dit c'est dangereux. C'est ça le problème. C'est vrai que c'est dangereux, mais c'est ce qu'on doit faire. Et malato. À la fin, on te dit, tu dois servir Dieu à partir de la matière. Est-ce que tu es capable de découvrir l'étincelle divine de cette bouteille d'eau? Ah, c'est sûr que c'est plus facile de découvrir Akadosh Boko à la Yeshiva, hein, c'est dans une bulle, dans l'arche de Noé. Un an, deux ans, trois ans, après tu commences à t'habituer, tu commences à faire un complexe d'Oedipe. Mais sors dans la rue, monte un business et reste sadique. Ah. C'est dans le noir que tu peux voir si vraiment quelqu'un sert à Kadosh Baruch Hu. C'est ça que dit Rabbi Shimon. Velef tova el amigo bisha. Et comment tu peux voir un bien si tu arrives à le sortir du mal? Quand tu vois quelque chose, tu vois quoi dans cette chose-là? Le mal ou l'étincelle de bien? Eh bien, il y a deux sortes de personnes dans ce monde. Il y a les mecs ou les femmes qui râlent tout le temps, qui voient que le mal. Et Rabbi Shimon Bar Yochai te dit, moi je vois l'étincelle divine qui se cache à l'intérieur de toute cette catastrophe. Qui c'est son maître? Rabbi Akiva. Rappelez-vous que Rabbi Akiva, quand il est allé voir la destruction du temple, il a vu le temple détruit, qu'est-ce qu'il a fait? Pendant que tout le monde pleurait, il s'est mis à rire. Pourquoi? Parce que le maître de ce Rabbi Shimon Bar Yochai, il lui a enseigné que quoi? Qu'il faut savoir déceler où est le bien qui se cache à l'intérieur. C'est pas possible que Dieu fasse du mal et qu'il n'y a aucun sens à tout ça. Ça, c'est le pessimisme, ça aboutit au suicide, Chas v'Shalom. Nous, le peuple d'Israël, on n'est pas là-bas, Rabotai. Et il faut savoir sans arrêt déceler le bien là où tu te trouves. Vous allez sortir de ce Machon Meir à la fin de l'année ou après. Il vaut sortir l'étincelle que vous avez pris ici. Mais si tout ton Machon Meir, c'est ouais, la bouffe, le machin, le lit, le matelas, la chambre. T'as pas compris. De tout ce cours que vous êtes en train d'écouter maintenant, si tu ne sors pas avec une étincelle et une décision avant ce Pourim, moi j'en ai rien à faire de venir donner un cours, j'en ai plein partout. C'est pas encore un Dvar Torah que tu as entendu. Alors tu as fait un petit V encore. Oh, j'ai étudié encore aujourd'hui. J'en ai rien à faire de ça. Kadosh Baruch Hu, il compte pas tes heures d'études. Il compte ce que tu as compris dans ta vie, ce que tu as pris de cette étude. Quand on était en Égypte, quand est-ce qu'on a pris l'or et l'argent et les vêtements? Quand il faisait noir. Mais c'est la même leçon. C'est quand il y a Makat Rocher, que toi, Israël, tu peux voir la lumière. Ou le Chol Bnei Israël Haya Or. Vous vous rendez compte de la leçon énorme? Ça veut dire que je suis capable à chaque fois dans ma vie, même dans les situations les plus difficiles, de voir la lumière. Regardez, on traverse le temps. Regardez aujourd'hui. Je vous donne un petit exemple. J'ai donné des initiales en hébreu. Matar. Vous savez ce que c'est Matar?
Oui, mais Matar aussi.
Hein? Non. Ça peut être matbeachus et ça peut être aussi des bombes qui nous tombent dessus. D'accord? Peu importe. Tu peux prendre le pour matbeachus. C'est bien. Tu vois que c'est dans la bourse. Même tête, traite. Tout ce que les Arabes ont voulu nous faire, même Milchama, tête, terror, chet, cherem. J'explique. Les Arabes, ils ont voulu au début, par la guerre, nous battre. Chlet. Akadosh Baruch Hu est avec nous, toutes les guerres, Baruch Hashem. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Pas possible, la guerre c'est pas possible. On va faire du terrorisme. Tête. Terrorisme, on va les tuer de mauvais temps. Un bus qui explose par là, un couteau par-ci, un couteau par-là. Qu'est-ce que ça a fait? Chlek, ça marche pas. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va se tourner vers l'Europe et on va dire à tous les supermarchés de ne plus acheter des produits israéliens. Chlek. Pourquoi Chlek? Ben parce que la guerre, ça nous a permis, parce qu'ils nous ont attaqués, d'inventer des choses qu'on n'aurait jamais inventées sans cette attaque. Le terrorisme, on a inventé des systèmes qu'on vend aujourd'hui au monde entier grâce à ces attaques, malheureusement, mais regardez. Et le Kherem, tout ce qu'on a voulu, le BDS et tous ces machins-là, contre Israël pour acheter des produits israéliens, on a découvert aujourd'hui, Baruch HaShem, de nouveaux marchés avec la Chine et l'Inde, on est en train de devenir une puissance mondiale. C'est une merveille. Vous comprenez comment ça marche? Alors maintenant, toi, revenons au moment où le BDS, il dit, c'est fini, tous les supermarchés du monde, on n'achète plus. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends un couteau, même en plastique, tu te suicides, d'accord? Mais non. Israël, c'est un caméléon. Il n'y a pas de souci, on va s'ouvrir à autre chose. Aujourd'hui, les plus riches au monde, c'est les Chinois. Dans 3 mois, vous allez voir ici des Chinois, vous n'allez même pas comprendre d'où ils viennent. Vous allez voir, des Hindous et des Chinois. Ça va remplir les rues. Pourquoi on a fait ça? Mais on nous a poussé à faire ça malgré nous. Vous comprenez comment on invente des choses? Toutes les inventions qu'on a inventées aujourd'hui, c'est parce qu'on a voulu nous étouffer d'un côté. Donc on était obligé, acculé au mur, d'inventer quelque chose que personne n'est en le vend aujourd'hui à tout le monde.
Mais on repousse le problème aussi.
Bien sûr qu'on repousse le problème. Ça veut dire qu'en réalité, nos ennemis voient qu'il n'y a rien. Kacher ya'anu oto, ken irbev et ken ifrots. Au contraire. Aujourd'hui, on n'a jamais été bli'aïn arabe, Baruch HaShem, mais ça va continuer. Jamais on était à un aussi haut niveau, au niveau de notre État. On est en train de devenir un empire qui est en train d'être l'assise du roi Mashiach. Sachez-le. Tu tapes dans une poubelle, il y a 10 start-up qui sortent. Mais où on a vu un péril pareil?
Les cadeaux d'Abraham à l'enfant de Torah.
Non, ça c'est autre chose.
Mais c'est le retour des Chinois.
Ça c'est toutes les étincelles divines qui se trouvent dans le monde qui reviennent sur sa terre. Ça veut dire que tout est en train de revenir. Vous comprenez la leçon du Zohar, là, de Rabbi Shimon? Il te dit, c'est pas que tu peux prier dans la nuit. Tu dis, non, il n'y a pas de prière s'il n'y a pas de nuit. C'est incroyable, ça. Donc, c'est proche de qui? Abraham, Yitzhak ou Yaakov? Qui? Non? Pourquoi Yaakov? Bien sûr. C'est Yaakov qui a instauré la tuila de Arvit. Ben, qu'est-ce que ça veut dire, instaurer la tuila de Arvit? Je crois que Yaakov, il s'est mis un Motsaï Shabbat, il s'est dit, bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant pour le judaïsme? Alors, j'ai inventé une prière d'histoire. Arrêtez. Yaakov, il a dit, est-ce qu'on peut servir Dieu dans la nuit? Est-ce qu'on peut servir Dieu dans l'angoisse de l'exil? Est-ce qu'on peut servir Dieu quand on ne le voit pas? Ça, c'est la Tfila de Arvit. C'est pas un texte. Vous comprenez ce que je suis en train de vous raconter? Et tu dois être un Yaakov qui devient Israël à l'intérieur de toi. Ça veut dire que même quand tu as des nouvelles qui ne sont pas très sympathiques dans ta vie, même quand tu as des événements qui ne sont pas très sympathiques, tu dois sortir comme un lion de ça. Beaucoup plus fort, beaucoup plus riche que ce que tu étais avant. Mais c'est ça. C'est ça Israël. Yaakov devient Israël. C'est un mutant, sans arrière-bouge. Tu l'as vu Yaakov avant-hier, il s'appelle Israël aujourd'hui, tu y attends, c'est le même. Oui, mais attends, vite fait, attrape-le, parce que demain c'est entre un an, c'est Yeshurun déjà. On est tout le temps dans une évolution, alors que le monde est en train de se mourir par un vieillissement. Israël est en train d'aller de l'avenir. La moyenne d'âge de cette terre, Biarinara, c'est très très jeune. Très très jeune. Il n'y a pas un patron de n'importe quelle affaire ici qui a plus de 45 ans. Tu vois un patron ailleurs, c'est 75, 80. Ça, si vous comprenez ce que je suis en train de vous raconter, tout ça, c'est Megillat Esther. Tout ça, vois-le aujourd'hui. Si tu n'arrives pas à le voir, t'es mort. Et pour le voir, il faut que tu aies une vision très 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 grande de la vie. Comment est-ce que tu peux avoir une vision grande de la vie? En regardant la vie comme Akadosh Baruch Hu la voit. Comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu voit la vie? En entier. Il voit le passé, le présent et le futur. T'es capable toi de voir le passé, le présent et le futur? Oui ou non? Oui. C'est pour ça que les Chachamim nous disent qu'avant de lire la Megillah, il faut l'ouvrir complètement. Vous avez déjà vu les gens en train d'ouvrir la Megillah, on dirait des fous. Ils sont sur 4 mètres, la panique, tu sais même plus où. Dis-moi, tu es Joha, ouvre là où tu lis. Et au fur et à mesure, tu déroules. C'est quoi cette panique? Réponse. Akadosh Baruch Hu nous donne un cadeau ce jour de pourri. Il nous dit, regardez, je vous montre à mon niveau, à moi. Vous voyez le début de la Megillah. Vous voyez le milieu de la Megillah avec tous les pogroms. Et vous voyez en grand là-bas les fils de Haman qui sont pendus. Tout est là. Qu'est-ce que ça te donne, ça, comme sentiment? Un optimisme, tu vois la fin. Tu peux même jeter un petit coup d'œil comme ça en diagonale gauche. La Yehudi Maïta Ora Vesimcha. Je t'abarche chez moi. Ça veut dire même pendant qu'il est dans l'angoisse là maintenant, et que le type qui est en train de lire, il va mourir. Parce qu'il dit, aïe aïe, va là, il a où? Toi tu te dis, mais arrête, qu'est-ce qu'il rigole celui-là? Je sais déjà, il y a les fêtards là-bas. Vous comprenez comment c'est énorme? Et ça c'est une halakha. T'as pas le droit de lire la Megillah si tu ne l'as pas. Pochetota. Qu'est-ce que ça veut dire pochetota? Tu la déshabilles. Incroyable. Autrement dit, tu arrives à voir à travers les vêtements. T'as enlevé ce qui t'embête, qui te cache. Quel? Une réponse, une question? Oui. Le yud, c'est l'hémisphère droit du cerveau. Ça correspond à la chokhma. Et le he, ça correspond à l'hémisphère gauche qui s'appelle la bina.
Non, parce que dans le cerveau,
c'est la même chose. Et le cerveau central, le cervelet, c'est le da'at, c'est Moshe Rabbeinu, il est là. D'accord? Tout ceci rabotaille pour que vous compreniez que la Megillat Esther, c'est énorme, énorme. Ne prenez pas Pourim comme une petite fête à la noix de coco, là, juste des déguisements et des machins, à faire les idiots. C'est énorme cette fête, énorme. Et d'ailleurs, ça ne disparaît pas jusqu'à la fin des temps. Et même après la venue du Mashiach. C'est écrit clairement, noir sur blanc, dans la Megillah elle-même. Ve'ayamim ha'el lo yas. Na'yudim. Tout le temps, ça va rester. Okay. Bien fait. Encore une fois, la même réponse. Kim'a, la Géoula, elle est pas à pas.
Mais non, alors ils ont eu au rab
et... Bien fait. Momentanément, ils ont eu au rab et simcha. Il y a eu un attentat, ils ont été sauvés. Baruch HaShem, d'accord. Ce slav, il est terminé. Maintenant, qu'est-ce que tu fais avec ce Baruch HaShem? Ou tu ouvres un magasin HM et tu dis Baruch HaShem. Ou bien tu viens ici et tu te dis, attends, Léat. C'est vrai. Alors, aujourd'hui, on est un pas en avant. Donc, tu vois bien qu'on est beaucoup en meilleure position que par rapport à tout ce qui s'est fait jusqu'à maintenant. Bien inara. Donc en fait, tu dois sortir de ce cours et danser dans le couloir. Todarabba, à ta mère.